Et voici le journal de l'économie signé Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, le décryptage éco s'intéresse à l'une des pistes gouvernementales censées redonner un peu de vigueur au secteur du livre et de l'édition en France. Le marché, on le rappelle, représentait en 2022 un chiffre d'affaires avoisinant les 3 000 millions d'euros. Au Salon du Livre, il y a quelques jours, Emmanuel Macron avait évoqué l'idée d'une taxe sur les livres d'occasion, diversement appréciée par les acteurs de la filière. Mais avant cela, Rachida Dati, la ministre de la Culture, avait évoqué la possibilité pour les éditeurs de faire de la publicité pour leurs livres à la télévision, comme c'est déjà le cas pour le cinéma. Une autorisation a été lancée à titre expérimental le 5 avril dernier pour les deux prochaines années. Sauf que la filière du livre n'est pas d'accord et demande majoritairement l'abrogation du décret. Bonjour Thomas Pinaroli.
Bonjour Anne-Laure.
Pour les syndicats d'éditeurs, d'auteurs et de libraires, en effet, la publicité de livres à la télévision va, une nouvelle fois, profiter aux plus gros acteurs.
Oui, car la plupart des maisons d'édition ne peut tout simplement pas payer ces spots publicitaires. Les chiffres sont très variables d'un livre à un autre, mais en moyenne, un éditeur fait 60 000 euros de chiffre d'affaires par titre. Or, faire de la publicité à la télé lui coûte au moins 30 000 euros. À ce prix-là, il n'y a que les deux principaux éditeurs qui peuvent payer, Hachette et Editis, qui représentent à eux deux la moitié des livres édités en France. La mesure risque donc de renforcer encore cette concentration du secteur. Alors, il n'est même pas question des 4 000 petits éditeurs français qui ne peuvent déjà pas payer d'annonces dans la presse ou à la radio. Ce sont plutôt les maisons d'édition moyennes qui s'inquiètent. Actes Sud, Flammarion, Albin Michel. Le risque, c'est que leurs auteurs à succès cèdent aux sirènes des deux géants, Hachette et Editis, qui pourraient leur offrir un écran publicitaire. Sauf que sans ces auteurs rentables, les autres éditeurs ne peuvent pas survivre. Et puis, le problème de la concentration est aussi vrai chez les distributeurs. Rachida Dati défend son décret en disant que les téléspectateurs vont venir acheter leurs livres en librairie et qu'ils en prendront trois autres sous le bras à l'occasion. Ce ne sont pas leurs habitudes, lui répond Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française.
Est-ce que le premier réflexe, c'est pas de prendre mon smartphone ou mon ordinateur pour le commander en ligne? Est-ce que le deuxième réflexe, c'est pas d'aller vers la grande distribution? Si tant est que ces personnes aillent en librairie, un lecteur occasionnel, c'est rare qu'ils repartent avec 3-4 autres livres.
Et ce ne sont pas les exemples à l'étranger qui rassurent les libraires. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le nombre de librairies s'est effondré après l'introduction de la publicité télévisée.
Pour cette peur exprimée par tout le secteur est en fait la conséquence d'un marché qui est extrêmement tendu, Thomas.
Oui, car le nombre relativement stable d'éditeurs cache en fait un énorme turnover parmi les 4000 PME du secteur. Très peu arrivent à pérenniser leur activité. C'est en partie la faute des best-sellers mis en avant dans les publicités, comme l'explique Jean-Yves Mollier, spécialiste de l'édition.
L'année où sort un album Astérix, le marché de la bande dessinée ne progresse absolument pas. C'est la répartition qui est complètement déformée, puisque tous ceux qui vont acheter l'Astérix, eh bien, n'achèteront pas d'autres albums. Les petits et les moyens éditeurs, pour eux, une bonne année, c'est l'année où il n'y a pas d'Astérix, où ne paraissent pas un Guillaume Musso, un Joël Dicker, ça laisse plus de place pour les autres auteurs.
Toute la filière du livre est de plus en plus soumise à la loi du marché et de ces nouveaux acteurs, grandes surfaces et vendeurs en ligne, qui représentent à eux deux presque la moitié des ventes. C'est même les trois quarts si on ajoute les chaînes spécialisées comme la Fnac ou Cultura. Reste donc un peu plus de 20% pour les librairies indépendantes. Et si leur nombre augmente chaque année, là aussi, c'est trompeur. Sur les 3700 points de vente, seul 1 sur 5 vend exclusivement des livres. Les autres se sont diversifiés pour survivre. Il faut dire que les librairies font en moyenne un petit pourcent de marge. C'est l'un des commerces les moins rentables. Or, les libraires sont les principaux vendeurs de livres de création, de nouveaux auteurs plus confidentiels. Le secteur redoute donc de perdre sa diversité, de voir s'envoler l'exception culturelle à la française.
Merci Thomas Pinaroli. On retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Éco sur le site de France Culture. On l'attendait, le gouvernement va reprendre la main sur l'assurance chômage après l'échec des dernières négociations entre partenaires sociaux. Un décret devrait être officiel le 30 juin pour des règles d'indemnisation a priori encore plus restrictives à partir du 1er juillet. Daniel Kretinsky souhaite céder l'hebdomadaire Marianne. Le milliardaire tchèque fervent européen n'apprécierait plus la ligne devenue souverainiste radicale du journal. Marianne est depuis 2018 dans le giron de l'homme d'affaires. Il y a investi 20 millions d'euros, mais aussi accéléré ses investissements tout azimut en France récemment avec le groupe de distribution Casino. Un appel à projet pour doper l'industrie française du vélo. C'est l'appel hier du gouvernement. gouvernement qui prévoit d'investir 55 millions d'euros dans la construction de vélos made in France. Près de 2,6 millions de bicyclettes ont été vendues en France en 2022 et seulement 850 000 y ont été fabriquées. Pour relancer cette production, un appel à projet doit notamment aider les fabricants à compléter les investissements pour moderniser ou agrandir leurs usines, mais aussi reprendre ou lancer la production de pièces détachées. Et puis rétablir des règles budgétaires plus strictes pour les pays de l'Union européenne, c'est l'objet du vote des eurodéputés ce mardi. Un nouveau pacte de stabilité qui, depuis la fin des années 90, limitait pour chaque pays le déficit des administrations publiques à 3% du PIB et la dette à 60%. Les nouvelles règles sont déjà critiquées pour leur complexité. Elles maintiennent le même cadre, mais en cas de déficit excessif, les demandes d'ajustement de Bruxelles seront plus souples.